La carte blanche, Africa Radio.
Et ce soir, dans votre émission, je rappelle que nous parlerons de la suspension par la CAF de certains stades dans plusieurs pays africains. Et d'abord, nous retrouvons notre invité carte blanche, Evar Nango. Bonjour.
Oui.
Vous êtes président national du mouvement des démocrates congolais, MODEC, ici à Paris. Premier sujet que vous souhaiteriez commenter, M. Nango, c'est la célébration le 10 mai, lundi dernier, de la Journée nationale des mémoires de l'esclavage en France. Et que souhaitez-vous dire à ce sujet?
Oui, merci beaucoup pour votre invitation par rapport au sujet que nous allons débattre ce soir. En ce qui concerne la journée de commémoration de l'esclavage, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Malgré l'aspect mémoriel, il y a les discriminations, le racisme qu'il faut combattre au niveau de la France, parce que c'est suite à l'esclavage que aujourd'hui la plupart des Français ou des Africains subissent l'esclavage, subissent la discrimination et le racisme en Europe et ailleurs aussi dans le monde, que ce soit en Amérique et partout ailleurs. Donc nous pensons que c'est bien beau de commémorer cette journée, mais il faudrait aller très loin, combattre...
Que signifie pour vous aller plus loin?
Aller plus loin dans la mesure où il nous dit qu'il y a beaucoup de discrimination et de racisme en Europe et en Amérique. Voilà, par rapport
mais jusqu'à ce qui est fait pour l'instant par les autorités françaises, par exemple, puisque vous êtes en France, pour vous ne suffit pas?
Oui, ça, pour le moment, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de prendre des décrets ou de voter des lois. Mais il faudrait qu'au niveau sur le terrain, il faudrait que ça soit suivi.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, pour vous, vous ayez le sentiment que cette question est en train de faire l'objet d'une plus grande attention des autorités françaises?
Il faudrait associer tout le monde. Il faudrait qu'au niveau des autorités françaises et de la communauté africaine, afro-africaine, il faudrait qu'il y ait... un suivi. Il faudrait que non, au niveau la discrimination, il ne suffit pas au niveau politique, c'est oui, mais c'est au niveau du quotidien, de tous les jours. C'est vrai que les efforts sont en train d'être faits, mais les efforts restent quasi insuffisants. Les contrôles de faciès par la police, malgré qu'on essaye un peu de voter des lois, de prendre des décrets pour que cela puisse évoluer. Mais ça reste
toujours... Ça persiste. L'autre sujet, M. Nango, ce sont les conséquences du Covid sur les économies africaines qui vous préoccupent.
Oui, effectivement, les conséquences du Covid sur les économies africaines. Là, nous savons que la crise du Covid, surtout en ce qui concerne certaines économies, a permis à ce qu'il y ait chute, par exemple, pour les pays producteurs de pétrole, la chute du baril du pétrole qui contribue aujourd'hui efficacement dans le développement de certains pays africains. Donc, nous pensons que la crise du Covid, il faudrait que cela soit résolu. Bon, aujourd'hui, on nous parle des vaccins. Il faudrait que la cadence au niveau des vaccins puisse s'accélérer pour que l'économie africaine puisse retrouver carrément son amplitude d'avant Covid.
Et dernier sujet avec vous, Evrard Nango, ce sont ces violences qui continuent à Jérusalem-Est. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces violences et comment y mettre fin?
Bon, je pense que c'est la perte humaine. Bon, voilà les dégâts que cela est en train de causer. Et nous pensons que par la force, on ne pourra pas résoudre ce problème. Il faudrait qu'à un moment donné, entre le Hamas et l'État d'Israël qui arrive un peu à discuter tout ça. Mais je pense qu'au niveau du Hamas, c'est au niveau du Hamas que ça bloque. Parce que je pense que l'État d'Israël est en train de faire énormément...
Mais le Hamas a demandé une trêve qu'Israël a refusée.
Oui, mais si le Hamas, mais c'est parce que c'est à cause du manque de bonne foi des dirigeants du Hamas. Parce qu'ils demandent une trêve. Mais entre-temps, les roquettes continuent toujours à se rabattre sur Israël. C'est ça le problème.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Evrard Nango, d'avoir été notre invité carte blanche. Vous êtes président national du mouvement des démocrates congolais, MODEC, ici à Paris.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Merci d'être avec nous. Nous ouvrons à présent notre débat sur le football. Comment comprendre qu'autant de stades du continent ne soient pas aux normes ? La question fait suite à la suspension de nombreux d'entre eux par la Confédération africaine de football en concertation avec l'instance fêtière du football mondial, la FIFA. Et nous en débattons ce soir avec trois invités. Roger Mila, ancien international camerounais à Douala. Il est également ambassadeur itinérant du Cameroun. Et nous avons également Tanou Diallo, qui est expert média à la CAF, la Confédération africaine de football. Il est à Bruxelles. Monsieur Diallo, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le vois à l'écran. Pour l'instant, peut-être ne nous entend-il pas. Et en ligne de Dakar au Sénégal, Abdoulaye Diaw. Monsieur Diaw, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste sportif sénégalais, donc merci d'être avec nous. En attendant que d'autres participants nous rejoignent, je voudrais commencer avec vous, Monsieur Diaw. Alors, pourquoi la CAF a-t-elle pris cette mesure maintenant, alors que le problème des stades non homologués n'est pas nouveau ?
Exact. Le problème n'est vraiment pas nouveau. Peut-être parce que la CAF a envie de rompre avec les mauvaises habitudes de l'époque, avancer dans la compétition sans que certains pays ne s'alignent dans les normes. Je crois que c'est une bonne chose de rompre avec ces mauvaises habitudes du passé, où on est prêt, où on ne l'est pas. Et quand on ne l'est pas, il faut entrer dans les rangs pour peut-être se refaire, pour peut-être s'attaquer à ce problème qui est celui de l'infrastructure qui ne répond pas aujourd'hui aux normes. Je crois que ça a été une bonne chose de la part de la CAF
de décider enfin de sanctionner
de certains dirigeants.
De décider enfin de sanctionner, c'est ce que estiment d'autres experts, qu'il était temps d'arriver à ces sanctions.
Oui, il était temps. Je crois que la CAF est restée longtemps muette face à cette situation. Et en le faisant tout de suite, elle conscientise certains pays sur ce qu'il y a à faire en priorité.
Merci. Je crois que M. Tanou Diallo est avec nous. On me fait signe. Non, il nous en... Là, merci à Hugo Vallière qui réalise cette émission. Voilà, Hugo, c'est bon. Je pense que c'est... Tanou Diallo est bien avec nous. Monsieur Diallo, bonsoir.
Oui, bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
Voilà, avant de donner la parole, nous venons de la prendre à l'instant. Roger Mila ne sera pas avec nous ce soir. Il a eu un décès d'un proche arrivé il y a quelques minutes, juste avant le début de cette émission. Donc, il s'est excusé. Il ne pourra donc pas être avec nous pour le grand rendez-vous de ce soir. Alors, Tanou Diallo, Monsieur Diallo disait qu'il était temps que la FIFA réagisse et qu'elle sanctionne effectivement les pays dont les stades ne sont pas homologués. Mais certains pensent aussi qu'il y a eu peut-être une pression de la part de la FIFA, puisque la décision a été prise en concertation avec l'instance fêtière.
Bon, je ne crois pas trop que c'est une pression de la FIFA, parce que depuis un certain temps, la CAF est en train d'avertir les pays qu'à un moment donné, on ne va pas continuer à jouer sur les pelouses qu'on est en train de voir sur nos petits écrans, parce que tout simplement, vous vendez un produit que vous produisez dans ces stades-là et ce qu'on voit, c'est pas du tout attractif. Donc, on n'allait pas continuer à jouer sur ces pelouses-là. Donc, depuis un certain temps, la CAF avertit les pays, mais beaucoup ne se sont pas bougés et c'est maintenant que la CAF a décidé de passer à l'action. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement
important. Et pour vous aussi, la FIFA a eu raison de sévir cette fois-ci?
La CAF, bien sûr.
La CAF, évidemment, pardon.
Oui, la CAF. La CAF a eu raison de réagir de cette sorte. On ne peut pas, en tant qu'Africain, on veut développer le football africain, on veut faire des grosses performances sur les compétitions africaines et internationales. Ben écoutez, on ne peut pas continuer à jouer sur ces pelouses-là. C'est évident qu'on ne peut pas continuer à jouer sur certaines pelouses qu'on voit sur le continent, à travers le continent africain.
Monsieur Diaw, hein, je parlais en début d'émission de certains pays qui sont sur la liste, en citant entre autres des pays comme la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, le Sao Tomé ou le Niger, ou des pays qui sont dans une situation de post-conflit comme la Centrafrique ou le Soudan du Sud. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu surprenant qu'on voit sur la liste des pays de football comme le Sénégal? Allô, M. Diaw?
Oui, je vous entends.
Oui, je dis, au Sénégal...
Je dis que ça peut paraître... Oui?
Allez-y, pardon.
Oui, je dis, c'est parce que pendant longtemps, le reste du continent africain ou du monde a pris le Sénégal comme étant un pays de football, alors que nous sommes seulement un pays de footballeurs.
Un pays de footballeurs, pas un pays de foot.
Pas un pays de foot. C'est bon d'y attirer l'attention. Nous sommes pays de footballeurs. Nous sommes pays pourvoyeurs. Partout, il y a de bons footballeurs. Mais on n'est pas prêt pour l'essentiel. Parce que je dis, l'outil premier du football ou du footballeur, c'est le terrain et le ballon. Et terrain, il n'y en a pas assez au Sénégal. Nous sommes encore restés à l'état amateur. Parce que vous savez, chez les pros, ça va très vite. On est pro. Parce qu'être professionnel, c'est un comportement. C'est un comportement, c'est se donner les moyens d'aller à l'essentiel. Mais en Afrique, les dirigeants sont amateurs. Et même le professionnalisme, pour parler directement de la discipline, est un professionnalisme débutant. Au Sénégal, par exemple, le professionnalisme existe depuis 10 ans. Et ce n'est pas tellement différent de ce que nous faisions au tout début. Quand notre professionnalisme n'était pas déclaré, rien n'a changé. L'environnement est toujours là. Je rappelais à quelqu'un, au début des indépendances, on disait ministère de la jeunesse et des sports. Le sport venait après la jeunesse. En d'autres termes, pendant longtemps, le sport a servi à éduquer. Alors, ce sont ces mêmes outils aujourd'hui qui servaient à éduquer, qui sont les mêmes pour aller, comme on dit, dans la compétition. Et voilà comment je disais tout à l'heure, et je l'ai souvent répété, je disais tout à l'heure que nous étions pays de football. Nous, Sénégal, pays
de football. Mais comment expliquez-vous ce qui peut apparaître comme une incohérence? Parce que vous parliez de pays de football, de footballeurs. Personne n'ignore aujourd'hui, en tout cas pour les amateurs de foot, qui est Sadio Mané. Le Sénégal aussi est un pays de grande école de foot. On connaît très bien Génération Foot. Mais comment expliquez-vous qu'au niveau des infrastructures, les autorités n'investissent pas autant ou alors semblent négliger cet aspect-là?
Alors, vous avez parlé de l'équipe nationale. C'est une image qui peut tromper, parce que quels sont les footballeurs sénégalais qui sont en équipe nationale? Ce ne sont pas des footballeurs qui vivent au Sénégal. Ce sont des footballeurs qui vivent dans les championnats européens.
Oui, mais pour qu'ils viennent jouer, par exemple, le Sénégal accueillera, je veux dire, si le stade était homologué, des matchs, des éliminatoires, ce sont ces joueurs-là qui vont venir jouer chez eux sur ces stades en mauvais état.
Oui, mais les joueurs l'ont toujours dit. Les joueurs ont toujours fait remarquer que les stades étaient en mauvais état. Je me souviens, il y a seulement quelques années, ils sont venus jouer au Sénégal. Et quand ils sont arrivés, ce sont les joueurs eux-mêmes qui mettent la main à la poche pour faire tailler le gazon. Les joueurs eux-mêmes. Et pourtant, les dirigeants vivent sur les lieux. C'est parce que le dirigeant, il est amateur. Il s'occupe de quelque chose pendant une semaine, pendant un mois, sans s'occuper vraiment de football.
Merci.
Il peut ne pas descendre sur la pelouse toute l'année, le dirigeant, parce que ce n'est pas son outil. Le gazon, c'est seulement l'outil du footballeur. Merci. Alors, ce sont des footballeurs qui mettent la main à la poche pour faire tailler le gazon. Parce que celui qui n'a pas la culture du sujet ne sait pas qu'un gazon touffu gêne celui qui a envie d'aller vite en football.
Justement, j'allais vous poser une autre question à la suite de vos propos, mais je vais d'abord donner la parole à M. Diallo. Est-ce que on n'a pas le sentiment finalement que la question de la maintenance de l'infrastructure est un vrai problème qui va au-delà du Sénégal, parce que quand on regarde le nombre de pays concernés par cette suspension, on se pose quand même la question sur le problème de l'aspect de maintenance, non?
Oui, exactement. Tout de suite, j'ai écouté mon confrère Lai Diao sur le cas sénégalais. Quand il dit, par exemple, que le Sénégal, c'est pas un pays de foot, que c'est un pourvoyeur de footballeurs, alors là, moi, je serais pas d'accord avec lui, parce que tout simplement, tout le monde se rappelle de cette épopée de l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002. Donc, cette équipe-là a inscrit le Sénégal sur la carte. Du monde. Et on sait qu'en revenant toujours sur le Sénégal, on sait que ce pays a abrité la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Donc ça veut dire que le pays avait toutes les infrastructures sportives à ce moment-là. Donc quelques années plus tard, retrouver le même pays qui n'a pas un seul stade homologué, c'est qu'il y a un problème quelque part, et un sérieux problème. Et ça pose la question que vous venez de poser tout à l'heure sur l'entretien et le développement des infrastructures. Vous prenez le stade Léopold Sédar Senghor. Si vous voyez aujourd'hui le stade dans lequel on a joué une finale de CAN, mais si vous voyez les photos de ce stade-là aujourd'hui, mais c'est scandaleux pour un pays comme le Sénégal. C'est inacceptable. Un pays qui a des footballeurs comme les Sadio Mané, les tous ces grands footballeurs-là qu'on connaît ici en Europe.
Répond Diata et autres, enfin, ils sont nombreux.
On s'en étonne,
mais comment expliquer cela? Qu'est-ce qui fait que il n'y ait pas autant d'efforts pour garder ces stades en bon état, au point qu'on se retrouve aujourd'hui avec ces suspensions? C'est quoi le problème?
Mais clairement, c'est le sport, les infrastructures sportives en Afrique, c'est pas une priorité pour les gouvernants. C'est aussi simple que ça.
Mais pourtant, tout semble savoir quel est l'intérêt. Je veux dire, certains connaissent le Sénégal aujourd'hui ou d'autres pays encore, que ce soit Roger Milla au Cameroun, le Samuel Eto'o. On connaît le Cameroun à travers ces joueurs. Donc, pourquoi on sait très bien quelle est la valeur du football aujourd'hui en termes d'image du pays, pourtant?
Mais vous et moi, on sait quelle est la valeur du football, mais est-ce que ces dirigeants-là connaissent la valeur du football? Moi, je ne le crois pas, clairement, parce que s'ils connaissaient la valeur du football, c'est que ce football-là représentait en termes d'image, je pense qu'ils auraient investi beaucoup plus dans les infrastructures sportives, ce qu'ils ne sont pas en train de faire. Là, on est en train de parler que du football, mais les autres disciplines sportives aussi, ces disciplines sportives aussi, les infrastructures sont quasi inexistantes dans tous ces pays.
Mais si le football, qui est la discipline phare, est déjà en difficulté...
Ce ne sont pas les autres disciplines, effectivement.
Non,
pas du tout. Donc, c'est un sérieux problème qui est posé là. Et vous avez vu que sur 56 stades, je crois, qui ont été inspectés, les 50% n'ont pas été homologués. Il y a un sérieux problème là. Donc, tous les pays...
Et toutes les sous-régions du continent sont d'ailleurs touchées, à l'exception du Maghreb et l'Égypte.
Exactement. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux pour toute l'Afrique, On n'a que 5 pays qui peuvent organiser une CAN à 24 équipes.
Absolument. Mais Monsieur Diallo, juste un mot. Vous dites que le Sénégal n'a pas investi, mais peut-être aussi, vous parlez des autres disciplines. Le Sénégal a quand même mis beaucoup d'argent pour construire un stade consacré à la lutte, l'arène. Donc, c'est quand même aussi, la lutte est aussi importante.
Oui, la lutte, elle est... C'est une tradition qui est beaucoup respectée au Sénégal et qui a beaucoup de fans. Donc à ce niveau, je pense que, et oui, les stades-là existent, mais là, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que ce sont les stades, parce qu'on est en train de parler de football. Donc à ce niveau que le pays se retrouve dans cette situation, ce n'est pas du tout acceptable, même si, il faut le rappeler quand même, le Sénégal est en train de construire un nouveau stade à Yamiayo. Donc, le stade-là, je pense que dans les mois à venir, ce stade-là sera, sera inauguré. Peut-être que le Sénégal sera au bout du tunnel, mais en attendant, mais le problème, il ne suffit pas de construire les infrastructures, mais il faut les entretenir.
Les entretenir pour qu'ils restent en bon état. Je vous propose, messieurs, de revenir dans quelques petits instants pour poursuivre notre débat sur ce qui peut être fait peut-être pour corriger ces erreurs avant la phase des éliminatoires prévues en septembre prochain.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Nous parlons ce soir dans votre émission de la suspension de certains stades par la Confédération africaine de football. Ces stades n'étaient pas en bon état et quel impact cela peut avoir sur la performance et des équipes concernées? Est-ce que cela va compromettre leurs chances de qualification pour le Mondial de football 2022? Nous en débattons ce soir avec Abdoulaye Diaw, journaliste sportif sénégalais à Dakar au Sénégal. Donc, et en ligne de Bruxelles, Tanou Diallo, expert média à la Confédération africaine de football. Et dans quelques instants, on devrait retrouver le journaliste sportif malien Idrissa Diakaté. Idrissa, bonsoir.
Et bonsoir, bonsoir depuis Bamako.
Merci d'être avec nous pour parler donc des conséquences de cette décision de la CAF. Alors le Mali est concerné très brièvement puisqu'on avait déjà dépassé cette phase du débat.
Oui, le Mali est concerné et les Maliens se sont restés partagés entre indignation et étonnement. Et puis bien sûr ceux qui n'ont pas été surpris. Mais c'était une information qui était déjà dans les coulisses depuis fort longtemps parce que le Mali, à l'image des autres pays, avait été averti et on a traîné la patte.
Et comment voilà, ont réagi les responsables du ministère des Sports et même de la Fédération face à cette situation?
En réalité, la Fédération s'est démarquée ou s'est dérobée en disant réellement que l'entretien ou la gestion des stades appartenait au département de tutelle. Ce qui fait que quelques heures après la dite décision, le ministre a d'abord organisé une forte campagne de presse et puis ensuite il a débarqué manu militari au stade du 26 mars, la principale infrastructure concernée par cette situation et au stade Omnisports Modibo Keïta. Mais les travaux qui traînent sont liés à beaucoup d'aspects et de paramètres. Donc, il a promis de suivre. Ces paramètres sont souvent liés à des retards dans les paiements, c'est-à-dire le déblocage des fonds traîne très souvent. Et puis, en réalité, les entreprises qui doivent avoir ces marchés sont multiples. Et puis, il y a des ramifications qui font traîner réellement les chantiers. Mais le ministre a promis de mettre fin à toute cette récréation, entre parenthèses, et puis et l'actuel ministre qui est en place depuis six ou cinq mois, et est désormais branché sur les deux chantiers, Stade Omnisports Modibo Keïta, stade du 26 mars, et même la nuit, très souvent, il y a des travaux qui se déroulent.
Merci beaucoup, Idrissa Diakaté. Et ça nous permet justement d'entrer dans la seconde partie du débat, comme je l'ai annoncé avant la pause, de parler de ces erreurs et ces problèmes, ces aspects ou ces problèmes qui ont conduit à la suspension. Peuvent-ils être réglés avant le début des éliminatoires prévus en septembre prochain, Abdoulaye? Allô? Allô, Abdoulaye Diaw? Je vais peut-être donner la parole à Tanou Diallo. Est-ce que vous pensez, on vient d'écouter Idrissa Diakaté nous dire que le ministre des Sports a promis d'accélérer les travaux pour ce qui est du stade Modibo Keïta à Bamako pour que les choses s'arrangent? Est-ce que vous pensez qu'avec un peu de vitesse, beaucoup de ces stades pourront réussir à être aux normes avant le début des éliminatoires?
Oui, je pense que les États auront encore du temps. Nous sommes au mois de mai et les éliminatoires de la Coupe du Monde démarrent au mois de septembre. Donc, ils ont quelques mois pour finir les travaux. Vous savez que je pense, à mon avis, que cette décision de la CAF a réveillé certains États qui se retrouvent dans cette situation-là, parce que tout simplement beaucoup ne s'attendaient pas à ce que certains pays qui sont dans cette liste se retrouvent là. Et là maintenant ça devient une question de fierté. Je pense que ça peut faire bouger, ça a pu faire bouger beaucoup de choses. Et là, ils ont le temps, les travaux vont être accélérés. On a écouté mon confrère malien qui nous dit qu'actuellement, il y a même des travaux à nocturne à Bamako. Mm-hmm. Je pense que si cette décision-là n'avait pas été prise, on n'aurait jamais eu ces travaux-là pendant la nuit. Ça, c'est clair, on sait comment ça fonctionne chez nous en Afrique. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça a mis un coup de pression sur les dirigeants, sur les ministères des sports qui sont aujourd'hui sous pression, parce que comme on l'a dit au départ, le football quand même c'est le sport le plus populaire sur le
surtout
continent.
Surtout au Mali. Donc, aussi, le Mali qui est un pays qui compte sur l'échiquier du football continental.
Exactement, le Mali a une très bonne équipe nationale avec des joueurs qui évoluent dans des grands clubs, des très bons clubs ici en Europe, donc c'est une très bonne équipe nationale, donc se retrouver dans cette liste-là, on a en quelque sorte honte qu'on cite notre pays dans une liste pareille en étant considéré comme un pays de football, en étant considéré comme un pays qui a une très bonne équipe nationale. Ça a mis un coup de pression sur ces dirigeants-là qui sont en train de se bouger. Je pense que d'ici le mois de septembre, ça va se régler pour la grande majorité des pays. Je dis pas que ça va se régler pour tout le monde, parce qu'on sait que certains pays ne sont pas dans des très bonnes situations.
Donc oui, on pense aux pays comme le Tchad, la Centrafrique ou le Soudan du Sud. Voilà, même si au Mali, ils ont affirmé que les travaux se font même de nuit, mais dans d'autres pays, peut-être malgré la volonté, on ne sait pas s'ils vont pouvoir y arriver pour question de financement. Je ne sais pas si on a retrouvé Abdoulaye Diaw. Abdoulaye, vous m'entendez? Oui, alors ce coup de pression dont parlait Tanou, est-ce qu'on le ressent aussi au Sénégal? Est-ce que les travaux ont commencé pour pouvoir rendre le stade aux normes d'ici là, d'ici septembre?
Oui, les travaux ont commencé, mais avant d'en arriver à l'aspect des travaux qui ont repris, j'ai envie de rebondir sur les propos tout à l'heure de Tanou, qui s'étonne parce que le Sénégal avait organisé la CAN 1992. Et à ce jour, il n'est pas en mesure d'organiser présentement une CAN. Mais Tanou oublie qu'en 1992, quand nous organisions la CAN, à l'époque, elle se jouait encore à 12. Et c'est d'ailleurs au Sénégal que l'on a organisé en 1992 la première CAN à 12. Sinon, avant d'en arriver au nombre de 12, elle se jouait à 8. La CAN s'est jouée à 8 pendant longtemps.
On est passé à 16 et maintenant on parle de 24.
Voilà. Et quand le Sénégal a organisé une CAN à 12, c'était seulement sur deux sites. Par exemple, le site de Dakar abritait les poules A et B. Et dans chaque poule, il y avait 3 équipes. Seulement 3.
Donc, Abdoulaye, vous êtes en train de nous dire que, de toute façon, on sait que, même si c'est le stade Léopold Sédar Senghor est réfectionné, le Sénégal n'est pas en mesure aujourd'hui d'accueillir une CAN à 24.
Non, pour le moment, non. Parce que nous n'avons pas, comme on dit, les stats nécessaires ou suffisants pour le faire. Pour le moment, quel est le stade fonctionnel au Sénégal? Il n'y en a pas. Tous sont déclarés, comme on dit, des stades à refaire, inopérationnels pour abriter un match international. Donc, il faut reprendre globalement tout. Alors, je disais donc que...
Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui soient en mesure de le faire, hein, peut-être à l'exception de 4 ou 5, dont le Cameroun qui va accueillir la prochaine CAN. Beaucoup de pays n'étaient pas préparés à ce qu'on passe à la CAN à 24. Donc ça, ça peut se comprendre, peut-être, non?
Oui, ça se comprend. C'est vrai que je disais à quelqu'un que la CAN a grandi un peu trop vite pour certains pays. De ce côté, la CAN a regardé peut-être ce qui se faisait dans le monde, parce que la Coupe du Monde aussi s'est élargie en passant de 16 à 32. On a voulu faire la même chose en Afrique, alors que les pays d'Afrique n'étaient pas prêts.
J'ai voilà. rappelé tout. Pardon, Abdoulaye, je voudrais qu'on revienne à notre question de départ pour cette seconde partie. Mais est-ce que vous pensez que malgré tout, avec un peu d'accélération, comme le disait Idrissa, on peut arriver à rendre beaucoup de ces stades aujourd'hui suspendus opérationnels pour les éliminatoires de septembre?
Pour le moment, l'État fait un tir groupé sur le stade seulement de Thiès, le stade major de Thiès, qui est à 70 km de Dakar. Les travaux ont commencé. Le ministre a promis très rapidement d'être prêt au moment de reprendre les qualifications. C'était prévu pour le mois de juin. Finalement, la CAF a retardé la date de la première journée au mois de septembre. D'ici là, ils sont sûrs d'être prêts pour débuter à Thiès. Mais le meilleur choix n'est peut-être pas encore celui de Thiès. Moi, je crois que la priorité, c'était le stade Léopold Sédar Senghor, qui est dans un état tel que tout de suite, il ne va pas être opérationnel avant 5 mois. Bon,
merci.
Pour le moment, Thiès reste encore ouvert à la compétition, et d'ici au mois de septembre, le stade Ladjour de Thiès sera peut-être opérationnel. Je dis bien peut-être opérationnel.
Merci, Abdoulaye.
Rien n'est garanti, mais que la priorité, c'est vrai, c'est surtout le stade de Thiès.
Idrissa, vous êtes aussi optimiste pour le stade Modibo Keïta?
Oui et non, parce que moi je pense que d'abord, j'ai dit quelque part qu'on n'avait pas besoin d'attendre ce coup de sifflet ou ce carton jaune ou rouge de la CAF ou de la FIFA pour prendre au sérieux les infrastructures qui ont été vraiment des...
Allô, Idrissa? La liaison s'est un tout petit peu détériorée avec Bamako. Idrissa, vous m'entendez? En attendant qu'on le retrouve, Idrissa. Alors, Tanou Diallo, est-ce finalement certains de ces pays-là engagés dans cette phase éliminatoire n'arrivaient pas à rendre leur stade aux normes? Quelles pourraient être les conséquences sur ces joueurs, sur les pays engagés dans les matchs éliminatoires? Est-ce que ça pourrait avoir une incidence, au moins sur le plan psychologique, aussi de ne pas avoir à jouer dans son pays?
Clairement. Chacun a envie de jouer à domicile, même si nous sommes dans une situation de Covid où la plupart des matchs se jouent à huis clos. Mais vous avez quand même envie de jouer dans votre stade où vous avez des repères, où vous sentez que vous jouez chez vous et maintenant...
Parce que les supporters sont souvent aussi considérés comme le 12e joueur.
Exactement. Donc vous avez cet avantage de jouer à domicile. Maintenant, si vous n'arrivez pas à remplir les critères, parce que là, ce qui va se passer, vous serez obligé de délocaliser.
Et si vous est-ce que cela peut vraiment avoir même une incidence sur la performance au point de menacer peut-être les qualifications? Le fait de ne pas jouer au pays... Je veux dire, est-ce que c'est à ce point un problème pour les joueurs et pour engager?
Pour les pays, comme je l'ai dit au départ, chacun a envie de jouer à domicile. Donc maintenant, si vous êtes dans l'incapacité de jouer à domicile, vous êtes obligé de délocaliser et ça a certainement des incidences. Vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas votre public derrière vous. Donc, et en même temps, vous allez lire la presse. Vous allez écouter la télé, vous allez écouter la radio. Donc, c'est sûr que vous allez entendre ce qu'on dit sur votre pays. C'est peut-être que c'est un facteur déstabilisant parce que tout simplement, on va dire que chez vous, vous n'avez pas un stade homologué. Déjà que ça fait beaucoup de débats dans ces pays-là. À partir du moment où on a dit que dans ces pays-là, il n'y a aucun stade qui est homologué, ça fait débat. Ça fait débat sur les médias, ça fait débat sur toutes les plateformes.
On se souvient aussi des polémiques qu'il y a eu lors de certaines rencontres avec le mauvais accueil réservé à certaines délégations. Ça peut être aussi un aspect qui peut être préoccupant.
Vous parlez de,
On l'a vu avec le Gabon et la Guinée et la Gambie à un moment donné, ça fait débat. Certains qui disent que quand ils partent dans un pays tiers, parfois ils ne sont pas bien accueillis.
Bon, ça c'est les choses, je pense que c'est anti, c'est pas fair play. Si vous recevez une nation, vous devez lui réserver cet accueil-là. C'est même un devoir pour vous de. Oh, ce n'est pas. Ça, c'est, ça vous ne montrez pas une bonne image du football africain qu'on a envie de montrer. Et c'est des images qui avaient été condamnées, je pense, par tout le monde. Donc, on espère qu'on ne va plus revoir ce genre d'image en Afrique parce que ça ne. Ce n'est pas du tout ce qui est souhaitable. On va pour jouer un match de football. Et le foot, c'est le fair play.
Merci beaucoup.
C'est le respect et le fair play.
Merci. On va à nouveau se retrouver dans quelques petites minutes.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Plusieurs stades de foot africains suspendus par la CAF parce que n'étant pas aux normes, quelles conséquences sur la performance des équipes et une solution est-elle possible avant le début des matchs de cette phase de qualification qui démarre en septembre prochain? Trois journalistes sportifs pour en parler. Idrissa Diakité, qui est à Bamako au Mali. Tanou Diallo, expert média à la CAF, la Confédération africaine de football à Bruxelles. Et Abdoulaye Diao, journaliste sportif sénégalais en ligne de Dakar au Sénégal. Je reviens à vous, Idrissa. La question que je vous ai posée tout à l'heure et qu'on n'arrivait pas à vous entendre, est-ce que vous êtes optimiste pour le stade Modibo Keïta? Est-ce que vous pensez qu'il sera prêt pour les éliminatoires de septembre?
Eh bien, moi, je suis un peu inquiet parce qu'au moment où je vous parle tout de suite, il n'y a plus de gouvernement au Mali. Le Premier ministre a démissionné et il a été reconduit pour constituer une équipe qui va s'atteler, bien sûr, à conduire le Mali vers la transition. Et dans cette démarche transitoire, il y a beaucoup de défis à relever et le sport en fait partie. Ça va être très, très difficile. Stade du 26 mars, stade Modibo Keïta, deux fronts, où la situation et les infrastructures sont assez vétustes. Les travaux ont commencé, mais il faut. Quand je suis passé à Yaoundé pour le CHAN et que je me suis retrouvé dans les stades comme le stade Japoma, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et Japoma du côté de Douala, je me suis dit, on est assez dépassé aujourd'hui. Depuis la fin de 2020.
Attendons de voir dans 5 ans si vous direz la même chose, parce qu'on a dit, d'autres intervenants ont dit ici que le problème de maintenance est un véritable défi. Donc, le Cameroun accueille la prochaine CAN à 24. Donc, c'est peut-être normal que
soit construit. Liliane, il nous faut sortir de l'allure du pompier, attendre à la réalité qu'on nous mette le feu pour qu'on puisse souvent faire face à des infrastructures qui ont été mises en place avec des millions, sinon des millions, la CAN 2002 a coûté ce que ça a coûté au Mali.
D'accord, CAN, on n'a plus beaucoup de temps. Idrissa, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je voulais juste vous dire, est-ce que si finalement les Maliens ne sont pas en mesure d'accueillir des matchs dans leur pays, est-ce que vous pensez que ça peut affecter l'état, le moral des joueurs et peut-être
Ça peut affecter l'état, bien sûr, de le moral des joueurs. Ça va toucher la gestion gouvernementale et ça va aussi beaucoup secouer la Fédération malienne de football. C'est un triangle très dangereux dans lequel il faut pas tomber. Donc c'est une course contre la montre. Attendons de voir.
Merci beaucoup. Abdoulaye, vous m'entendez?
Je vous entends.
Oui, si finalement on arrivait malgré tout à avoir ne serait-ce que la moitié ou même plus des stades aux normes d'ici septembre, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que l'histoire ne se répète plus?
Mettre l'accent sur l'entretien des stades, parce que nos stades ne sont pas bien entretenus. Vous ne voyez pas un personnel qui vient s'entretenir du gazon tous les matins ou après chaque match, ni un personnel qui doit s'occuper, comme on dit, des gradins tous les jours. Si vous allez au stade le plus gros du temps, vous faites le ménage vous-même de votre propre siège avant de vous asseoir là-dessus, parce que vous vous rendez compte...
C'est-à-dire un entretien permanent.
Voilà. Exactement. Je parle parce que l'entretien, c'est dans le quotidien. C'est tous les jours, ne pas attendre le samedi ou le dimanche au moment du match pour faire, comme on dit, un grand lavage. Non, il faut l'entretenir tous les jours. Je donnais tout à l'heure, pour exemple, le gazon sur lequel les joueurs devaient jouer. Et quand ils sont arrivés, eux-mêmes ont mis la main à la poche
pour tailler le gazon. Vous l'avez dit, Abdoulaye. Alors, en deux mots aussi, vous parliez tout à l'heure des dirigeants de football qui ne connaissent pas le foot et qui descendent rarement dans les stades. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut laisser le sport aux sportifs? Ministère, sûr. Confédération?
C'est sûr, parce que la pratique sort de l'administration, parce que généralement, ceux qui sont dans les ministères, ils font de l'administration, ils n'ont pas la culture de la pratique. Rares sont les décideurs pour les footballeurs, les décideurs dans les ministères, qui sont des produits de la pratique. Si vous avez un Roger Milla ou un Jules Bocandé qui veille là-dessus tous les jours, ce n'est pas la même chose que quand un administratif se doit de descendre, comme on dit, sur le terrain à la veille du match ou le jour du match. Il faut être un produit de la pratique pour pouvoir réfléchir pour celui-là qui doit jouer dimanche.
Merci beaucoup, Abdoulaye. Et vous, Tano Diallo, quelle solution pour qu'on n'assiste plus à cette pression de la CAF qui pousse finalement les dirigeants à s'occuper de l'entretien des stades?
Bon, déjà, les infrastructures sportives doivent être une priorité pour nos États, pour nos différents États. Ce serait déjà un grand pas. Maintenant, après, il faudra mettre en place un système de gestion de ces infrastructures-là. Donc, il ne s'agira pas de juste construire l'infrastructure et de la laisser là. Donc,
est-ce qu'il ne faut peut-être pas aussi envisager une descente plus fréquente de la commission d'une commission de la CAF et peut-être prévoir aussi des sanctions pécuniaires pour s'assurer que les stades soient bien entretenus?
Bon, ça peut être une solution, mais je pense que c'est beaucoup plus cette responsabilité, c'est beaucoup plus. On va mettre cette responsabilité beaucoup plus au niveau des différents États. On n'ira pas jusqu'à. Parce que ça, c'est une solution. Je pense que c'est une solution extrême. Donc, il faudra que les pays prennent leurs responsabilités, qu'ils construisent les infrastructures sportives et qu'ils trouvent un modèle de gestion qui puisse permettre à ces infrastructures sportives-là de se maintenir, de rester le plus longtemps que possible. On est ici en Europe et on voit comment c'est géré. Et malheureusement, chez nous en Afrique, les infrastructures sportives appartiennent encore à l'État. Sinon, ici, on sait que les stades, c'est beaucoup plus, c'est où c'est une commune, où ça appartient à un club. Donc, c'est totalement différent. Peut-être qu'il faudrait aller dans ce sens-là pour faire en sorte que ces infrastructures sportives puissent être durables.
Merci. Et vous, Idrissa, quelle solution pour... voilà, on me fait signe qu'on a malheureusement perdu Idrissa. Je vais me retourner à nouveau vers vous, Abdoulaye. Au-delà de cette responsabilité des États dont vous avez parlé, et aussi peut-être la façon de gérer les stades, est-ce que vous vous dites qu'il y a peut-être que cette suspension va être un déclic et finalement pousser les États africains ou bien les dirigeants de football à ne plus retomber dans ce piège, c'est-à-dire à mettre une politique de maintenance permanente?
Certainement, il est temps qu'ils soient conscients de tout cela. Mes collègues l'ont tout à l'heure dit, il ne suffit pas, comme on dit, de doter les sportifs d'un stade et de s'en détourner. Vous avez bien raison de poser la question de savoir si dans 5 ans, les stades seront dans cet état flambant neuf.
Pour le Cameroun.
Après, voilà, exactement. Si vous revenez 2 ans ou 3 ans après, vous ne reconnaissez pas les lieux. Alors, ils ne savent pas entretenir. Je l'ai dit tout à l'heure.
Pourtant, comme les maisons, les résidences qu'on balaie tous les jours, qu'on lave à l'eau de Javel, il faut aussi entretenir les stades de la même façon.
Voilà, comme disait l'autre, la nature a horreur du vide. Il faut qu'il y ait tous les jours le personnel sur place qui vient pour ça et à demain pour la même corvée. Je l'appelle corvée parce que malheureusement...
Mais est-ce que vous pensez que les États africains vont comprendre cela après cette suspension?
Il est temps. Il vaut mieux bien entretenir que de devoir tous les 5 ans aller chercher de nouvelles installations. Il faut les conscientiser là-dessus. Il est temps que les États africains comprennent qu'il le faut. C'est tout aussi vrai que les États ont beaucoup fait. Parce qu'en Afrique, sans les États, on n'aurait pas joué au football. Les États sont les financiers de l'ensemble du football. Il est aussi vrai peut-être que nous payons le choix de la pluridisciplinarité. Vous en voyez qui veulent tout faire, qui veulent tout faire du football à la pétanque et qui n'en ont pas les moyens.
Merci.
Résultat, rien n'est entretenu.
Merci beaucoup Abdoulaye Diaw. C'est sur ce propos qu'on va mettre un terme à notre émission Le Grand Rendez-vous ce soir qui parlait des stades, de la suspension de nombreux stades en Afrique par la Confédération africaine de football, faute de normes. Abdoulaye Diaw qui est journaliste sportif sénégalais à Dakar au Sénégal. Merci à Tanou Diallo, expert média Confédération africaine de football à Bruxelles. Merci à vous Idrissa Diakité, journaliste sportif malien. Vous étiez en ligne de Bamako. Merci à Édouard Ning et à Hugo Vallière qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.